Le Festival des Possibles, c'est sur Radar. Le Festival des Possibles, c'est sur Radar, comme on vient de vous le dire à l'instant. Et on est toujours dans notre studio mobile, en compagnie de Warren. Alors, je te branche,
ouais.
Voilà. Warren, donc dans le Festival des Possibles, organisé par Vivre en Transition, on a toujours les BTP hein, qui nous font le petit... ce qu'on appelle un bed en radio, c'est-à-dire la musique qui va accompagner un petit peu nos paroles. Alors, attends, son micro, je t'entends pas bien dedans, si tu peux pas...
Je vais...
Voilà, mieux, c'est mieux.
Alors,
Donc, Festival des Possibles, Vivre en Transition, etc. Voilà, enfin bon,
on commence à avoir l'habitude.
Ça commence. Oui, hein, donc voilà. On ne le présente plus. On est là en studio mobile de Arensor, Radar et la radio de Arensor. On aime à le préciser aussi, puisque au départ, Arensor, c'est une association de promotion de musiques actuelles de la région. Et on se fond dans le territoire au travers des différentes cultures. Aussi, c'est pas que de la musique, c'est aussi du patrimoine, oui. S'il vous plaît. Et des fois, on dit des trucs intelligents aussi.
Parfois.
Alors, Warren, toi, d'un coup, tu t'es dit, mais moi aussi, je veux participer au truc et je veux donner des petits conseils de ce que je sais sur
des
choses.
Alors, c'est pas des petits conseils, mais je veux expliquer un petit peu. Tout un écosystème, c'est celui des abeilles.
Les abeilles. Eh bien, parle-nous des abeilles, mon cher ami
Mise
Warren.
Mise en contexte. Avant toute chose. Je ne suis pas passionné d'abeilles à la base.
Alors, c'est quelque chose que tu as découvert.
Que j'ai découvert. Alors, en fait, j'ai fait une mission pour le musée d'histoire naturelle du Havre. Et en fait, dans le musée d'histoire naturelle du Havre, depuis près de 25 ans, il y a une ruche qui a été installée. Où il y a des abeilles qui vivent en tout temps ici. Donc l'hiver, quand le musée est fermé, ils sont déplacés au jardin suspendu au Havre, pour ceux qui connaissent. Et l'été, ils sont donc dans le musée et on peut les voir. La ruche est vitrée, en fait, et on voit vraiment l'intérieur de la ruche. Donc c'est un projet qui a été mis en place par la ville du Havre il y a près de 20 ans. Il y a des ruches qui ont été mises en place au jardin suspendu, au musée d'histoire naturelle, aussi sur le toit de l'hôtel de ville. Il y en a vraiment un peu partout dans le Havre, à Cocrioville aussi, il y a des ruches d'abeilles. Et donc ça a été un projet monté du coup par la ville du Havre. Et en travaillant là-bas, j'ai appris énormément de choses sur ces petites bestioles.
Moi, c'est le premier truc que j'ai été voir quand je suis arrivé au Havre en 2009 de Caen. Et un des premiers trucs que je suis allé voir, c'est le Muséum d'Histoire Naturelle. Et effectivement, cette ruche, moi, ça m'a scotché pendant un petit bout de temps. En fait, c'est
passionnant.
Super à regarder. Rien, ouais. Juste sans même lire les panneaux, les trucs. Vous mettez devant la vitre et vous regardez travailler le truc. Et vous commencez à comprendre comment ça fonctionne.
Si c'était aussi simple. On essaye de comprendre.
À peu près.
Ouais, c'est
à peu près. Mais c'est passionnant.
Donc alors, déjà, c'est un petit peu comme les fourmis. C'est découpé un peu comme les fourmis. Tu vois, c'est une grande société avec... trois grandes, comment on pourrait appeler ça, métiers.
Ouais, des corps de métier.
Des corps de métier, allez. Donc tu vas avoir les BTP, c'est les ouvrières. Les ouvrières
qui fabriquent la ruche.
Qui, elles, vont parfois fabriquer la ruche, parfois juste s'installer et ramener, faire des allers-retours, aller chercher le pollen, aller chercher du nectar, aller chercher de l'eau. Pour nourrir du coup les deux autres corps de métier.
Alors, donc, c'est les prolétaires celle-là.
La toute seule c'est la reine.
Elle pond,
elle féconde. Ensuite il va y avoir les gardiennes, on va dire. Donc c'est pas comme les fourmis où ça va être des soldats qui vont aller attaquer. Les abeilles c'est vraiment
c'est de la défense.
C'est de la défense, donc ça va être des gardiennes. Ils vont se poster juste à l'entrée de la ruche et elles vont attendre en fait qu'il y ait un intrus qui rentre, que ce soit ne serait-ce qu'un moucheron, en fait, pour lui sauter dessus, en gros, l'attraper puis le dépouiller. Donc, une abeille, faut savoir qu'une abeille, c'est pas méchant. D'ailleurs, on va faire un petit jeu, là. Je vais te dire des noms d'insectes. Mm-hmm. Tu vas me dire s'ils font partie de la famille des abeilles ou pas. Et je suis sûr que tu vas te faire avoir à un moment.
D'accord. Donc, les araignées, non.
Alors, les araignées, non. Alors... les abeilles européennes, oui.
Oui.
Les frelons européens.
Je ne sais pas, parce qu'en général, on dit que les frelons mangent des abeilles, enfin, sont les premiers prédateurs des abeilles.
Eh oui, donc, alors, les frelons, en fait, ce n'est pas des abeilles, et on les reconnaît assez facilement. Un frelon, c'est beaucoup plus gros qu'une abeille. Et en plus, là, il faut être vraiment très, très perspicace. mais un frelon va avoir des petits poils, une abeille a plein de petits poils assez souples sur tout son corps. Un frelon va avoir des poils
uniquement sur le thorax,
plus court qu'une abeille.
D'accord.
Donc, c'est-à-dire que tu vas sûrement pas voir les poils d'un frelon. Ils en ont, mais c'est vraiment microscopique. Mmh. Ensuite, on va avoir, par exemple, je peux te dire les guêpes. Les guêpes. Alors.
Ah. Alors, est-ce qu'on considère que est-ce qu'on considère que elles doivent être pollinisatrices ?
Alors, non. Une abeille.
Parce qu'elle est carnivore, l'abeille.
Alors, une abeille est.
Pas l'abeille,
le
la guêpe.
Frelon, la guêpe, oui. Donc, alors, une guêpe ne fait pas partie de la famille des abeilles.
Non.
Et on la reconnaît parce qu'elle a des poils qui se voient, mais qui sont rigides, vraiment durs.
Mm-hmm.
Ensuite, le dernier, ça va être le bourdon. Et donc, tu te doutes de la réponse.
Bah, il fait partie de la famille des abeilles.
Et voilà, le bourdon fait partie de la famille des abeilles. Donc, ce sont des abeilles solitaires. Il faut savoir que 70% de la population d'abeilles dans le monde, ce sont des abeilles solitaires. On parle souvent des abeilles en parlant des ruches, des communautés d'abeilles, mais les abeilles vivent principalement en solitaire. Et on peut retrouver pas mal de petits nids d'abeilles, d'ailleurs, un peu partout, dans les villes, dans les campagnes. Et donc, voilà, les abeilles produisent énormément de choses bonnes pour toi, bonnes pour ton corps. Qu'est-ce qu'elles produisent ? Vas-y, une autre petite question, là.
Alors, juste avant qu'on réponde à cette question, je voulais rebondir un petit peu sur le bourdon. Moi, j'ai appris plein de trucs sur le bourdon.
Oh.
Il faut savoir que le bourdon, c'est l'être vivant qui, proportionnellement à sa taille, a le plus gros sexe.
Ah, d'accord.
Voilà. Et donc, c'est-à-dire que
fais des recherches sur les sexes des bourdons.
C'est-à-dire que si on avait un sexe proportionnellement aussi développé que celui d'un bourdon par rapport à notre taille, on devrait le transporter dans une brouette.
Ah ouais, d'accord. Enroulé comme une saucisse de Toulouse.
Voilà, gros machin. Voilà, c'est lui qui a le plus gros de toute l'espèce animale partout sur la Terre. C'est, voilà, cherchez pas, c'est le bourdon.
D'accord.
Et en plus, à côté de ça, le bourdon, il y a des scientifiques qui se sont posé la question de savoir mais comment réussit le bourdon à voler, parce que la proportion de ses ailes ne lui permet pas physiquement de pouvoir voler.
De soulever sa queue.
De se soulever lui-même par la même occasion. Et donc, il y a des scientifiques qui se posent encore la question, qui essayent de résoudre ce problème. Mais comment fait le bourdon pour réussir à décoller alors qu'il a des ailes qui ne qui lui permettent pas de le faire. Voilà, ça c'était ce que j'avais appris. Donc, il y a pas que.
Et du coup, ils font comment ?
Eh ben, ils cherchent.
D'accord. D'accord. Merci, merci.
Alors, pour répondre maintenant à ta question sur qu'est-ce que produisent de bon les abeilles,
les abeilles.
En premier lieu, le miel, forcément.
Le miel, forcément.
La gelée royale.
La gelée royale.
Puisqu'elle nourrit la reine pour pouvoir faire nourrir les larves.
C'est
etc.
ça.
Et puis, y a tout ce qui est cire et compagnie.
Cire. Il va y avoir un dernier truc.
Du vent.
Non, ça va être le propolis.
Le propolis.
Alors, le propolis, c'est une genre de... ça va être un petit peu, en fait, tous les déchets des abeilles.
D'accord.
Donc, comme ça, ça fait pas rêver.
Ouais.
Mais il faut savoir que c'est très, très bon pour l'organisme. Le propolis.
Ça fait quoi ?
C'est une odeur, en fait. Ça a une odeur assez forte.
Ah, c'est l'odeur qui... c'est les molécules qui se dégagent
qui
de ça.
Qui calme un petit peu. C'est reposant.
Donc, c'est apaisant.
C'est apaisant. Et donc voilà, le propolis, c'est quelque chose que très peu de personnes connaissent des abeilles, mais c'est vraiment en fait les déchets des abeilles qui du coup est bon pour le corps.
Mm-hmm.
Ensuite, j'aimerais te poser une autre petite question.
Mais
ça va se dérouler
ça
en question.
Ça va être en quiz, vas-y, je t'en prie.
Alors, est-ce que les abeilles vont t'attaquer ?
Alors non, elles t'attaquent pas les abeilles puisqu'elles sont en mode défensif.
On est d'accord.
Si on suit bien le processus de qu'est-ce que t'as dit tout à l'heure.
C'est ça.
Et en fait, elles n'attaquent que si on les attaque au final, enfin si on les agresse.
C'est ça. Pourquoi ?
Eh ben parce que c'est moi si je te fous une claque, qu'est-ce que tu dis ? Hein ?
Aïe !
Ben voilà.
Non, alors, en fait, si tu veux, les abeilles, c'est des animaux très intelligents. C'est-à-dire que les abeilles savent... Donc les abeilles déjà sont les seuls animaux qui si ils piquent, enfin si elles piquent
oui,
pour le coup, meurent à 90% des cas.
Alors moi donc, je sais pourquoi.
Toi, tu sais pourquoi ?
Oui.
Bah, moi aussi.
Ah bah, vas-y.
Bah, vas-y, toi, si tu sais.
Eh ben, en fait, contrairement à tout ce qui est frelons et guêpes et ce genre de catégorie-là, les frelons et les guêpes ont un dard lisse qui leur permet de piquer plusieurs fois et la poche à venin est, reste justement... alors, au bout d'un moment, la poche à venin, elle se vide, hein, on est d'accord. Donc, même si on est piqué plusieurs fois, au bout d'un moment, voilà, c'est la première piqûre qui fait le plus mal.
C'est ça.
Après, les abeilles, eux, elles n'ont pas de chance parce que bah, elles ont une sorte de harpon, en fait. C'est une espèce de crochet au bout du dard.
C'est denté un petit peu.
Qui fait que quand ils s'enfoncent dans la peau et qu'elles s'envolent, le dard reste enfoncé comme un harpon dans une baleine, finalement. Et donc, elles s'arrachent la poche à venin.
Et donc, attention, âme sensible, s'abstenir. Elle se vide de tous ses boyaux. Et il ne restera donc plus que la peau, donc une fine peau, les ailes qu'ils ne pourront plus bouger,
oui.
Et la tête et le cerveau continuent de fonctionner
Argue.
Pendant presque une heure.
Quelle horreur.
T'imagines
Oh. Sachant qu'on a réussi à prouver il n'y a pas si longtemps que ça, bon, fallait-il le prouver, on s'en doutait quand même un petit peu, que bah, les insectes, quels qu'ils soient, souffrent.
Oui.
Ressentent la douleur, ne serait-ce qu'une mouche qui se cogne contre une vitre, on trouve ça rigolo, mais en fait, elle, c'est pas drôle. Mais du tout, quoi.
Oui, bon.
D'ailleurs, il faut pas gratter une piqûre d'abeille.
Surtout pas.
Parce que justement, en fait, vous risquez de presser sur la poche à venin qui va vous faire encore plus mal parce que le venin va partir dans le.
On va partir sur un bienfait pour le corps.
Oui.
Inattendu, on va dire.
D'accord.
C'est-à-dire que là, on parle de piqûres d'abeilles.
Mm-hmm.
Mais savais-tu que les piqûres d'abeilles et le venin d'abeilles étaient bons pour l'organisme ?
Ah !
C'est-à-dire qu'en fait, ça va réveiller des cellules, je sais plus comment on appelle ça, mais défensifs de l'immunité, là.
Oui. Les globules blancs qui vont se mettre en route.
C'est ça. Et en fait, ça va les faire travailler énormément.
D'accord.
Et donc, il y a énormément, de plus en plus dans d'autres pays, en France, c'est pas encore fait, mais dans d'autres pays, il y a de plus en plus de micro-injections de venin d'abeilles.
Pour stimuler
les globules blancs pour les personnes qui sont en déficit de...
D'accord, immunitaire.
En défense immunitaire.
Donc, des personnes atteintes, par exemple, du VIH.
C'est ça.
Parce qu'on sait bien que voilà, le virus s'attaque aux défenses immunitaires et même un rhume peut vous tuer.
C'est exactement ça. Donc, savoir qu'il y a des médicaments naturels comme ça qui peuvent exister et dont on ne s'attendait absolument pas. On va te dire, tu vas te faire piquer par une abeille, ça va te faire du bien. Enfin, moi, je dis ouf, pas sûr. Alors, on va passer à une autre petite question.
Oui.
Est-ce que toutes les abeilles peuvent piquer ?
Alors non, est-ce que ce serait pas plus les femelles ?
Eh, c'est exactement ça.
Hein ?
Les mâles peuvent piquer aussi. Mais en fait, si tu veux, les femelles vont avoir un dard plus grand que celui des mâles. C'est la seule espèce. On va avoir un dard plus grand que celui des mâles. Et donc, en fait, les mâles, quand ils vont essayer de te piquer, en fait, leur peau et leur abdomen va toucher avant leur dard.
Mm-hmm.
Donc c'est vraiment, ça peut te piquer, mais si tu te fais piquer par une abeille et que t'as pas mal, c'est que c'était un mal, tu vois.
D'accord.
Ça va juste t'effleurer la peau, en fait.
Ce qui serait bien, c'est quand même de réussir à définir le sexe avant.
Avant, c'est mieux.
Alors, mais c'est délicat quand même. Parce
c'est délicat. Bah, faut les observer de près.
C'est ça, on n'a pas forcément le temps.
Et souvent, quand tu la vois sur ta main, c'est trop tard.
Oui, ou alors, il faut vraiment y aller doucement et regarder
c'est
avec une loupe.
Ça.
Mais
donc,
bon.
Je voulais parler aussi d'autre chose.
Oui.
C'est-à-dire de pourquoi les abeilles sont importantes.
Ah, bah alors.
Mis à part toutes les choses et les bienfaits qu'ils nous apportent.
Les abeilles, en fait, et je crois que c'est Einstein qui disait ça, le jour où il n'y aura plus d'abeilles, on ne pourra plus manger.
Alors, oui, c'est Einstein qui disait ça.
Voilà.
Et il n'avait pas tout à fait tort. Parce que les abeilles sont des animaux et les plus gros pollinisateurs insectes.
Mmh.
Donc, c'est-à-dire qu'en fait, les abeilles vont polliniser 80% de toutes les fleurs.
Alors, ce qui reste, le 20% qui reste, il y a le vent, il y a toutes les autres espèces animales.
Tout ce qui va être peut-être papillon qui peut polliniser un tout petit peu ou quoi que ce soit, mais c'est léger en fait. Si tu veux, les autres insectes qui vont butiner vont aussi polliniser, mais à une échelle beaucoup plus restreinte que les abeilles.
Parce que les abeilles, elles sont justement pourvues de poils qui permettent d'accrocher un maximum
les poils longs et souples.
De pollen dans leur
C'est exactement ça.
Dans leur popoche.
Donc alors, on va faire une petite simulation. Ah oui. T'imagines, les abeilles pollinisent 80% des fleurs qui existent.
Boum.
Prenons 5 fleurs que tu aimes.
Ah, j'aime bien. Alors, j'aime bien les coquelicots.
Les coquelicots.
Ouais, c'est beau.
Ouais.
J'aime bien. J'aime bien les marguerites.
Les marguerites.
5.
Les roses, allez, je t'aide.
Non, les orchidées, c'est mieux.
Les orchidées, vas-y.
Voilà, bon, les roses, allez, les voilà, roses. On va les mettre dedans aussi. Et puis, pourquoi pas les bleuets. C'est
les bleuets. Beau, les bleuets. Alors, tu vois, les 5 trucs que t'aimes bien, là.
Oui.
Bah, tu retires les bleuets, la rose, les orchidées et la marguerite. Il t'en reste un.
Il reste plus que le
Et donc, c'est ce qui restera si les abeilles disparaissent.
Mm-hmm.
Et pourquoi les abeilles disparaîtraient? Ça, tu vas me poser la question. Pourquoi? Alors, bon, on s'en doute un petit peu, mais il y a un petit peu de notre faute dans tout ça.
Un petit peu seulement?
Un petit peu beaucoup. Alors, déjà, pendant longtemps, maintenant, ça a tendance à diminuer, mais l'utilisation de pesticides, insecticides nocifs pour les abeilles a été surexploitée, on va dire. Ça y allait. Maintenant, il y a des insecticides faits exprès pour toucher les autres insectes nuisibles et pas les abeilles.
Mm-hmm.
Mais ça reste quand même mauvais pour l'environnement.
Bah, de toute façon.
Donc, on va privilégier maintenant plus tout ce qui va être système d'oiseaux.
Et ouais, alors là, tu touches un point particulier parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que bon, les insecticides, on commence doucement à en revenir malgré c'est les ça. Subventions européennes qui sont encore toujours faites. Pour les agriculteurs, voilà, utilisez ce produit-là et vous aurez moins 30% sur je sais plus quoi, ou vous pourrez vendre votre blé plus facilement, ceci, cela, c'est machin. Ça. Donc, bah, forcément, à pas du gain, on essaye de rentrer dans les clous pour avoir ces fameuses subventions pour pouvoir tenir le coup. C'est difficile d'être agriculteur par les temps qui courent. Et à côté de ça, on a perdu, il y a, on va dire, allez, ne serait-ce que 40-50 ans. Allez, au plus loin, 70 ans des techniques. Tout simplement, au-delà des abeilles, il y a une perte énorme en termes d'insectes qui font que tout s'écroule finalement. Et en fait, le meilleur moyen de faire revenir des insectes et de refaire revenir des abeilles, parce qu'au-delà des abeilles et de la pollinisation, il y a aussi tout l'écosystème qui suit derrière. C'est-à-dire c'est que ça. Si on remet des haies, entre les champs, entre les parcelles de production.
C'est ce qui se fait de plus en plus d'ailleurs. Voilà, zones non. Comment ils appellent ça?
Bah, le fameux bocage,
c'est,
finalement.
C'est ça. Les zones, en gros, non défraîchies, où ils laissent les herbes pousser, où ils laissent tout au
alors,
naturel.
Il y a ça. Et puis, il y a justement ce côté parcellaire, redécouper des parcelles plus petites avec des haies, ce qu'on appelle le bocage, qui a été détruit pendant la guerre, pendant le débarquement par les Américains, parce qu'ils sont... Ils pensaient avancer beaucoup plus vite que ça au départ, mais ils se sont retrouvés confrontés à ce fameux système de bocage, à savoir que toutes les parcelles des agriculteurs étaient séparées par des haies. Et du coup, ah mince, ça a freiné leur progression. Ils ont dû tailler là-dedans. Et puis, petit à petit, avec les exploitations qui sont devenues de plus en plus exponentielles, on a viré les haies, ce qui a enlevé des oiseaux, ce qui a permis... Et avec tout ce qui était phytosanitaire, insecticides, etc., on a tué une grosse partie des insectes. Donc, il n'y a plus d'oiseaux non plus. Regardez sur vos pare-brises. Hein. Moi, quand j'étais petit, on passait notre temps à laver les pare-brises parce qu'il y avait des moustiques, mais alors des couches et des couches sur les phares, et c'est infernal à enlever. Et maintenant, vous prenez l'autoroute, vous faites un trajet de 5 heures ou même de 2 heures, il n'y a pas un pet de moustique qui vous aura sali le pare-brise, quoi. J'ai digressé un petit peu.
Oui, on est arrivé aux moustiques sur le pare-brise, mais bon, après tout, c'est radar. Alors, pour les revenir abeilles. Du coup à la disparition des abeilles, donc, oui. On a les insecticides. On va avoir aussi du coup tout ce qui va être lié à l'activité humaine plus directe, par exemple les gens qui vont écraser des abeilles, c'est pas gentil quand même.
Mmh.
Et la dernière chose, ça va être les frelons.
Le frelon asiatique.
Asiatique, puisque nous avons des abeilles européennes.
Mmh.
Il y a les abeilles européennes, les abeilles asiatiques qui sont plus grosses et qui sont plus dangereuses. Et il y a les frelons européens et les frelons asiatiques qui sont plus gros et plus dangereux.
Bizarrement.
bizarrement, en Asie, ils ont des trucs gros aussi.
Oui.
Ah ouais, non, en ce moment-là, je suis déter. Alors, du coup, l'importation de cette espèce. Alors, ça a été une espèce qui a été importée un petit peu par erreur. Hein, ça n'a pas été fait exprès. Qu'on retrouvait à la base en Asie du sud-est, vers la Chine, un petit peu en Inde, etc. Et cette espèce, en fait, s'est retrouvée chez nous avec de la nourriture à profusion. C'est-à-dire énormément, énormément, énormément d'abeilles et de frelons européens. C'est-à-dire que on parle souvent que les frelons asiatiques s'attaquent aux abeilles, mais s'attaquent aussi aux frelons européens.
Donc, parce qu'ils sont plus petits.
Donc les frelons asiatiques se nourrissent énormément d'abeilles. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un frelon asiatique peut faire énormément de dégâts sur une ruche. Une dizaine de frelons asiatiques peuvent exterminer une ruche. S'ils s'y mettent à plusieurs, ça peut aller très 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 vite.
Et surtout qu'ils ont la dalle en plus.
En une journée, on peut ne plus avoir de ruche. Donc souvent, c'est très très rare quand ils attaquent les ruches comme ça, mais souvent, par exemple, là où je travaillais au musée d'histoire naturelle, on avait un frelon, un ou deux frelons, qui traînaient à l'entrée de la ruche et qui attrapaient une abeille. Dès qu'elle sortait, ils n'attrapaient une, ils partaient avec. Et puis ils revenaient, puis ils en rattrapaient une. Donc tant que ça reste comme ça, c'est gênant, mais...
La communauté peut encore à peu près survivre. C'est ça.
Quand ça devient plus important, là, ça devient problématique. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur les abeilles.
Eh ben, attends, c'est pas fini.
Tu veux dire quoi ?
Parce que, justement, si, pour reprendre ton exemple des coquelicots et des machins, que les abeilles, si elles sont plus là pour polliniser les choses et qu'on a plus à manger... ça veut dire que si vous regardez bien, en fait, tout ce qu'on mange en général, ne serait-ce que déjà des biscuits, produits par du blé. Alors le blé, c'est pas forcément les abeilles qui font le chose.
Non.
C'est des graines qui se reproduisent, blé. Mais par contre, à côté de ça, on a tout ce qui est tomates, courgettes, concombres.
C'est ça.
Fruits. Alors les fruits, bah, je vous fais pas la liste, hein, mais tout ce qui naît grâce à une fleur, en fait, et qui fait un fruit. Donc voilà, cerises, prunes, etc. machin.
Bah, et ce serait bien triste quand même la nature avec 80% de fleurs en moins.
Nous, les pommiers, par exemple, en Normandie, les pommiers sont en fleurs, les cerisiers qui sont en fleurs, s'il n'y avait pas d'abeilles pour polliniser tout ça, vous imaginez le nombre de pommiers qu'on a en Normandie, par exemple.
Ah, c'est énorme.
En fait, voilà, le calcul, le nombre de fleurs que comporte un pommier. Voilà. Donc le nombre d'abeilles qu'il faut pour que l'ensemble du pommier et l'ensemble de l'ensemble des pommiers soient pollinisés.
C'est ça.
Voilà, juste pour des pommes. Et on démultiplie ça après pour l'ensemble des fruits et l'ensemble des légumes qui naissent par des fleurs.
C'est ça.
Et ben voilà, si on a pu ces fameuses abeilles, ça veut dire que ça va être compliqué de manger des fruits et des légumes par jour.
Oui, quand même. Par jour, des fruits, par jour. Tu manges les fruits et les légumes par jour.
Ouais, à tous les jours.
Tous les jours.
Et non, faut.
Bon.
Bah oui, alors faites attention aux abeilles.
Faites attention aux abeilles.
Ouais.
Renseignez-vous, il y a plein d'associations, d'initiatives, même de quartiers. Je ne sais pas s'il y en a sur Fécamp, mais je sais que sur Le Havre, il y en a pas mal, sur Bolbec aussi, sur Rouen aussi, des associations de quartiers qui mettent en place des ruches sur les toits des immeubles.
Et il y a des associations aussi qui vous proposent d'avoir des ruches chez vous, comme il y a des gens qui vous proposent d'avoir des poules chez vous. Il y a même des communautés de communes ou des agglomérations.
D'ailleurs, il y en a un, il m'a proposé d'avoir un kangourou, j'ai pas compris.
Non, alors ça non, c'est pas très... Bon, voilà. Mais si vous voulez vous lancer dans l'apiculture... C'est joyeux ça d'ailleurs.
C'est happy.
les poules ou les machins comme ça. Enfin, il y a des assos justement pour que vous ayez ça chez vous.
C'est ça, il y a des formations, il y a des assos qui font des formations
là-dessus. Il y a même des collectifs sur des barres d'immeubles où les habitants souscrivent pour avoir une ruche au-dessus sur leur toit d'immeuble pour dire voilà, nous on produit notre miel à nous. Et qu'ils peuvent revendre après dans des quartiers ou juste pour avoir du miel dans leur immeuble.
Et oui.
Et que dire d'autre ? Oui, ne chassez pas les abeilles. En fait, ne chassez pas les insectes tout simplement. Alors les moustiques c'est plus dur. franchement,
ils font chier parfois.
Eux, vraiment, c'est des bâtards.
Ah ouais. Ah ouais, non, eux.
Mais au-delà de ça, les araignées, les fourmis, les machins, vous savez, on met toujours des petites coupelles de trucs anti-fourmis, machin. Préférez mettre du sucre et du vinaigre ou des machins qui les éloignent.
C'est ça.
Plutôt que de les tuer. parce que bah, voilà, ça fait partie aussi, ça manque de vers de terre dans la terre. La terre n'est pas encore assez aérée. Plus on enlève, plus on met du phytosanitaire dans la terre, plus on tue ce qu'il y a en dessous de la terre. Et donc, moins la terre arrive à se nourrir, à s'aérer, à prendre bah, une meilleure forme. Et votre culture en général,
ce qu'il y a dans la terre, elle est sous la terre,
elle est moins bonne. Et les araignées, c'est pareil, ne les mettez pas dehors. Pour ceux qui ne les écrasent pas, déjà, il ne faut pas les écraser. Je sais qu'il y en a plein qui disent ah, mais ouais, ça me fait peur, c'est dégueulasse, ces machins-là. Mais non, les araignées, en fait, c'est, ça prouve que votre maison est saine, déjà, parce que si elles s'y réfugient, ça veut dire que il fait bon vivre ici. C'est plutôt cool. Donc, elles sont bien. Et ça veut dire aussi que si vous les remettez dehors, bah non, il fait froid, j'ai pas envie d'être là, je vais mourir. Et bien souvent, dans 90% des cas, en fait, quand on remet une araignée dehors, elle meurt. Donc pour ceux qui se disent « Ah, je vais la préserver, je vais la remettre dehors », non, en fait, vous la tuez quand même. Donc laissez-la là où elle est. C'est pas la petite bête qui va manger la grosse. Parfois ça pique, ça arrive, on se gratte un peu. Mais c'est pas plus que c'est, voilà, ça va pas.
Ah bien, l'ami des insectes.
Mais oui, mais faut les insectes sont nos amis.
Oui.
Faut les aimer aussi.
Vive les tautinelles, comme on dit.
Les tautinelles. Et les coccinelles, on disait voilà les nuisibles, tout ce qui est pesticides et compagnie machin, mais en fait il y a plein d'insectes qu'on considère comme nuisibles, mais qui en fait font partie aussi de l'écosystème et qui ont leur utilité. Alors peut-être qu'ils sont pas agréables parce que ils bouffent des feuilles dessus, ils sont en train de voilà, ils colonisent un pied de tomate, les pucerons, ah quel enfer, gnagnagna. Mais si vous mettez plutôt que du pesticide, vous mettez une armée de coccinelles là-dedans, je peux te dire que là, mon vieux, alors elle se régale parce qu'elle bouffe les pucerons.
C'est ça.
Et c'est un insecticide naturel. Et voilà, et la boucle est bouclée. Et on est dans un cercle vertueux. C'est quand même vachement mieux.
C'est exactement ça.
Voilà, on vous a sensibilisé autour des abeilles et autour des insectes en général.
Oh, coccinelle.
Oui. Anecdote.
Une coccinelle.
Oui, c'est les points sur le dos,
c'est ça ?
Rouge. Oui.
T'es d'accord ?
Il y en a des jaunes.
Oui, mais prenons les rouges.
Les rouges.
Fais pas chier. Alors, faut savoir que les coccinelles, si elles sont rouges, c'est pas pour rien.
Alors, c'est pourquoi ?
C'est parce que le rouge, c'est quelque chose qui...
C'est danger.
C'est danger. Ça, c'est connu, tu vois, le rouge. Danger, t'approches pas, touche pas.
Je suis mauvais.
Pourtant, quand tu vois une coccinelle, tu peux l'attraper. Quand t'es gosse, t'attrapes les coccinelles dans tes mains.
Tu joues avec, oui.
C'est ça. Pourquoi il est rouge ? Eh ben, en fait, c'est parce que la coccinelle a dans son corps une toxine qui n'est pas puissante, qui peut pas nous tuer, nous, êtres humains, ni même nous faire du mal.
D'accord.
Mais qui va te laisser un sale goût amer, très très fort dans la bouche, pendant plusieurs heures.
D'accord, donc faut pas en manger.
Que tu peux te rincer la bouche, tu peux te brosser les dents, ça va rester dans ta bouche.
D'accord, ok. Donc,
faut savoir que dès qu'il y a un animal, un insecte souvent rouge, ça veut dire
c'est
touche pas ou mange pas.
Voilà. Alors, pour ceux qui vivent en transition en se disant « Ouais, je vais remplacer la viande par des insectes », éviter les coccinelles.
Oui. À point de vue gustatif.
C'est pas très très bon.
Non.
Voilà. Bon, et les sauterelles aussi, quand il y en a trop et que ça dévaste les cultures, là, vous pouvez vous faire une petite fricassée.
Ouais, une petite friture
autorisé.
De criquet. Oh.
Voilà, c'est autorisé. Après, effectivement, la souffrance animale, etc. Voilà, chacun est pour chacun et contre. Mais c'est des moyens palliatifs.
D'avoir des protéines sans manger forcément de la viande qui va polluer énormément, etc.
Ouais, alors là, on digresse sur un autre sujet la surproduction de viande.
De toute façon, on est parti des abeilles, on est parti sur les coccinelles. Ensuite, là, on est maintenant sur la viande.
Mais c'est ça.
Tu nous as parlé de tes moustiques sur ton pare-brise.
C'est ça, vivre en transition. C'est ça, le festival des possibles. C'est qu'on parle un petit peu de tous les sujets. On est dans l'échange, dans la réflexion de ce qui est bon, ce qui est mauvais. Toi, tu penses ça. Bah non, moi, je pense le contraire. Et puis, finalement, ça se coordonne, on s'entraide, etc. C'est tout ce qui vous est proposé au sein de ce parc Botanica à Fécamp. On est encore en direct pendant 1h30. Il est 16h à la pendule de radar, mon cher ami. C'est l'heure du goûter.
Oui.
Oh, moi, j'ai dit gâteau.
C'est parti.
Ouais. On vous souhaite... Alors, on a eu des petits problèmes de connexion tout à l'heure. On est désolé, ça arrive des fois. C'est des petits problèmes techniques en interne. Mais vous pouvez retrouver tous les podcasts, dans le courant de la semaine prochaine. Laissez-moi le temps de les mettre en place parce que je suis un petit petit peu tout seul à gérer le truc. Mais voilà, on promis, de toute façon, tous les podcasts vont être en ligne. Suivez-nous sur les réseaux Insta, Facebook, on va vous tenir au courant de quand est-ce que ça va arriver. Et puis voilà, qu'est-ce que tu voulais rajouter d'autre ?
Bah rien.
Rien ? Eh ben écoute, alors on va partir sur de la musique. Qu'est-ce qu'on a ? On a Shems. Shems, c'est groupe Fécampois.
Oui, Shems.
Qui fait du reggae. L'hymne de la rose, c'est tout de suite dans vos oreilles sur Radar. Nous, on fait cette petite pause musicale et puis on va essayer de retrouver un petit peu des exposants pour discuter avec eux et continuer à suivre ce festival des possibles. Bon après-midi à tous sur Radar.
Bonjour.
Le Festival des Possibles, c'est sur Radar.